À l'approche des Journées européennes du patrimoine, la Fondation du patrimoine a dévoilé les sites départementaux lauréats en 2025, Isabelle Duché.
Dans chacun des départements de notre région, un site a été sélectionné pour bénéficier du soutien financier de la mission patrimoine. Et pour les présenter, nous sommes avec Anne-Marie Leroy, déléguée régionale de la Fondation du patrimoine Occitanie-Pyrénées. Bonjour madame.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, dans cette sélection, un lieu par département, des églises, une ancienne usine, de nombreux châteaux ont été sélectionnés dans notre région. Ils bénéficieront donc du soutien de la mission patrimoine, celle qu'on appelle la mission Berne. Si on commence par les Hautes-Pyrénées, c'est l'église Notre-Dame et Saint-Laurent à Gézot. Dans quel état est-elle et quelles rénovations sont nécessaires?
Alors, on est dans un petit village de la Vallée d'Or, à 850 mètres d'altitude. C'est une église romane dans un paysage charmant. La Vallée d'Or, on n'a pas besoin de la décrire. Et l'église remonte au XIIe siècle. Elle a déjà fait l'objet d'une restauration qui a été entièrement prise en charge par la commune. Tout à fait remarquable parce qu'on a affaire à une toute petite
commune. Oui, c'est un bel effort.
Oui. Et elle a besoin encore de restauration pour la conserver, et à la fois le bâtiment, mais aussi le mobilier. Il y a un mobilier très intéressant dedans. Il y a un devant d'autel, un retable, une statue de la Vierge du XIVe siècle, etc. Tout cela a besoin d'être restauré et sauvegardé. Je signale d'ailleurs sur les chemins de Saint-Jacques.
Oui, là
on
aussi.
On est sur le tracé du GR105.
Voilà. D'accord. Alors, je signale une autre église, cette fois en Aveyron, qui menace de s'écrouler. Elle est attenante au château de Pana. Voilà, pour des raisons que vous comprenez, on n'a pas le temps de lister tous ces sites. Mais on va partir pour Lavelanet, en Ariège, à la découverte de l'ancienne usine du Montfrère. C'était une ancienne usine de textile, Anne-Marie Dumont.
Oui, c'était une usine historiquement très importante en Ariège. Puisque le village était devenu le principal centre de cardage de la laine en France. Et l'usine Dumont, qui a employé à son apogée 350 ouvriers, fabriquait depuis les premières étapes jusqu'à la fin. La fabrication était entièrement intégrée. Ils ont fait, alors pour les moins de 20 ans, ça va peut-être être difficile, mais un vêtement qui était très emblématique à une époque était... on est en Ariège, mais c'était un caban breton qu'on appelait le cabig. Très très connu. Alors, il faisait ça. Bon, l'usine a été victime de la désindustrialisation qu'on a connue. Elle a fermé. Elle est de nouveau propriété de la famille. Elle est en train d'être restaurée. Et l'objet, c'est du point de vue architectural du patrimoine du 19e siècle très intéressant, avec des éléments d'architecture en métal qu'on connaît.
Oui, c'est pas juste un hangar.
C'est pas juste un hangar, c'est un très beau bâtiment. Et il y a un projet de restauration qui est intéressant parce qu'il est très emblématique de la manière idéale de restaurer le patrimoine, c'est-à-dire de lui donner une deuxième vie.
Et oui, c'est ça.
Et là, on va créer un pôle d'artisanat d'art et un pôle d'artisanat, enfin un pôle culturel. Donc, des artisans vont s'installer, des entreprises de métiers d'art qui vont pouvoir à la fois fabriquer, vendre, etc. Donc, c'est une renaissance pour ce bâtiment industriel qui redevient un bâtiment d'activité économique, mais dans un cadre beaucoup plus culturel.
Eh oui, bien sûr, et c'est très intéressant. Alors après, il y a des châteaux. Hein, des châteaux, il y en a dans chaque département. Le château de Courançon dans le Gers, le château de Marciac dans l'Aude, le château de Bulle dans le Tarn-et-Garonne et le château de Montlaure en Haute-Garonne. On va peut-être parler d'abord de ce château de Marciac dans le Lot. Hein, c'est ce qu'on appelle le Quercy Blanc. Et c'est vrai qu'il abrite depuis de nombreuses années un festival de musique qui s'appelle le Festival... Il abritait.
Pendant de nombreuses années. Le propriétaire actuel, en fait, est le descendant de la famille qui avait organisé ce festival de musique, qui était propriétaire du château. Et il se souvient que quand il était enfant, il a côtoyé des grandes figures du jazz qui ont parfois joué avec lui dans la cour du château. Alors, on peut mentionner Ivry Gitlis, Anne Kefelec, Alexandre Lagoya est venu, Nino Ferrer aussi est venu se produire au château. Et puis, le festival s'est arrêté, mais le propriétaire actuel voudrait le relancer. Mais ça suppose de sauver d'abord ce château qui est en grand état de péril.
Ouais, il y a vraiment des béances dans le toit.
Alors d'abord, il a beaucoup souffert de l'histoire. Il a brûlé pendant 3 jours à la Révolution. Et puis, il y a de nouveau eu un incendie en 1978 qui fait que la toiture du corps de logis est partie. Il y a une tour principale qui est très intéressante parce qu'elle a une base de briques qui est unique dans cette région-là, dans cette partie-là de l'Occitanie. Et il y a aussi un magnifique escalier Renaissance, vraiment très beau, qui actuellement ne tient que par les étais. Donc il y a eu une première campagne de sauvetage qui a eu lieu en, avec l'aide des pouvoirs publics, de la DRAC,
de
la région, etc. En 2022-2023, mais il faut absolument continuer le travail de consolidation et de sauvetage, notamment pour cet escalier qui est absolument remarquable. Et une fois le sauvetage, la consolidation réalisée, il faut mettre hors d'eau, il faut mettre hors d'eau et hors d'air la tour principale. Il faudra sans doute à terme reprendre la toiture du corps de logis. Il faut consolider l'escalier. Et ensuite, dès que la consolidation sera faite, le propriétaire compte reprendre la tradition d'un festival de musique en Quercy Blanc.
Ah oui, bon, alors ça sera effectivement un beau cadeau, on va dire, la cerise sur le gâteau pour couronner tous ces travaux. Alors vous parliez de soubassement en brique. Alors il y a un autre château, mais qui lui est complètement en brique, c'est le château de Bulle dans le Tarn-et-Garonne. Oui. Et il a aussi une chapelle ornée de fresques, et il y a aussi des fresques dans le château.
Il y a aussi des fresques dans le château. Alors ce qui caractérise ce bâtiment, c'est assez original, c'est que n'est pas propriété privée, il appartient à la commune et c'est l'école communale.
Donc il c'est est pas utilisé, courant quand même. Hein.
Oui, il est utilisé depuis la fin du 19e siècle comme école, ce qui a permis quand même sa préservation.
Eh bien sûr. Oui.
Mais il y a quand même des travaux qui sont nécessaires, alors aussi pour lui restituer, parce que l'école forcément transforme et altère un petit peu, donc il s'agit de restituer certaines ouvertures et de faire des travaux de consolidation, parce que malgré tout il a beau avoir été entretenu, il a son âge. Mais c'est un beau château qui lui a gardé, et c'est ce qu'il a préservé, il a gardé une utilisation.
Oui, voilà, ouais. C'est ça. Oui. Et heureusement, les fresques n'ont pas été masquées. Elles auraient pu être peintes.
Absolument, elles n'ont pas été masquées. Elles sont visibles. Alors, il faut les restaurer. Il y a un diagnostic qui a été fait. Elles ont besoin d'être... elles aussi, elles ont leur âge. donc, elles vont faire l'objet aussi de travail de restauration.
Nous avons encore le temps de parcourir notre belle région et nous pouvons aller dans le Gers pour admirer ce magnifique château du Corançan. Alors lui, il a besoin d'une consolidation de ses fondations. Il date du XIIIe siècle.
Oui, XIIIe siècle. Il a été restauré par une famille de passionnés. Comme souvent à la fondation, nous avons affaire à des gens qui ne sont pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, des milliardaires qui s'achètent des châteaux et qui les rénovent à grand prix. On a souvent affaire à des gens de la classe moyenne, moyenne supérieure, qui n'ont pas de fortune et qui passent absolument toutes leurs économies, une grande partie de leurs revenus, qui s'endettent souvent, énormément de temps. Donc ce château a été acheté dans les années 60 par un passionné qui est passé là et qui est tombé amoureux du château. C'est l'histoire classique.
Oui.
Le château est en bon état. Le problème qu'il a maintenant, c'est que le rocher qui est en dessous s'affaisse. Et donc, il faut consolider ce rocher parce qu'on commence à voir apparaître des désordres dans le château liés à l'affaissement du sol.
Oui, et c'est très impressionnant parce qu'il est vraiment posé sur ce rocher, à la plombe.
Absolument, oui.
Oui, c'est impressionnant. Peut-être qu'on peut rappeler quand même les quatre critères principaux qui vous permettent, vous, de sélectionner un site.
Alors, l'intérêt patrimonial, bien entendu. L'intérêt patrimonial, historique, artistique. Et l'état de péril, c'est important, il faut qu'il y ait péril. C'est un des critères principaux de la mission Berne. Il faut que le projet soit mûr.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il y ait un plan de financement solide qui rende crédibles les travaux de restauration. La mission Berne est devenue plus sévère à ce sujet-là au cours des dernières années, parce que dans les premières années... ça n'a pas toujours été pris en compte. Il y a des projets qui n'ont pas abouti. Or, dans ces cas-là, l'argent est perdu.
Mais oui, c'est bête.
Et c'est vraiment dommage. Donc, c'est un critère très important. Et le quatrième critère...
La maturité du projet.
La maturité, c'est de ça que je Par là, ah oui, les maturités, périls, intérêts.
L'impact sur le territoire.
Oui, l'impact sur le territoire est pris en compte. Alors, oui, pas forcément comme critère principal, mais ça pèse.
Un intérêt culturel ou touristique.
Voilà, exactement. Ça peut être
ou économique.
Ça peut être un paysager. On peut parler d'un bâtiment qui va avoir, qui est un peu emblématique d'un village, d'un pays. Bon, prenez Pana, par exemple, l'église est et son château sont tout à fait identitaires dans le village. Biou, le château, l'école, c'est pareil. La Velanée, là, on a un intérêt économique, plus un intérêt identitaire quand même, parce qu'une usine qui a employé 350 ouvriers
c'est
en Ariège, ça n'est pas rien.
Du pays. Voilà. Oui, d'accord. Et puis, sa valorisation, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un projet derrière, après la restauration.
Il y a un projet derrière, il faut qu'il y ait une ouverture au public, au moins un certain nombre de jours dans l'année. Pas forcément en permanence. Quand on a affaire à des propriétaires privés, on ne peut pas exiger d'eux qu'ils ouvrent en permanence, mais il faut qu'il y ait une ouverture au public une partie de l'année. Il faut qu'il y ait une visibilité de la voie publique.
Ah, oui.
Ça, c'est vrai pour tous les projets, d'ailleurs, soutenus par la Fondation. Parce que, surtout quand il s'agit de propriétaires privés, bien évident que quand vous distribuez de l'argent public, vous voulez quand même que l'ensemble du public en profite.
Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on peut encore candidater à l'édition 2026 des sites emblématiques de la mission patrimoine, puisque les dossiers doivent être déposés avant le 16 novembre 2025. Ouais. Et puis, il y a une autre sélection, c'est la sélection des sites départementaux. Et avec là, un dépôt des dossiers avant le 28 février. Donc, ça laisse encore quelques mois. Et puisque vous parliez, Anne-Marie Leroy, de cette ouverture au public, j'aimerais bien vous demander votre coup de cœur, puisqu'on arrive aux Journées européennes du patrimoine le week-end prochain. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux éditeurs de Radio Présence d'aller voir?
Alors, il y a des événements absolument partout.
Oui, ça oui.
Pour nos amis toulousains, je conseillerais évidemment le Palais Niel.
Ah oui.
Qui ouvre comme tous les ans au moment des Journées du patrimoine. C'est le moment d'aller admirer les travaux qui ont été faits, si on ne l'a pas fait.
C'est vrai.
Qui sont quand même, maintenant, on voit le résultat, qui est assez spectaculaire. Dans le Gers, un beau château encore, Flammarens, où l'on a remis la charpente et la toiture de la tour. Il y a d'ailleurs des photos spectaculaires, je pense, qui pourront être vues, où on voit une grue élever cette charpente énorme au-dessus de la tour. Donc, Flammarens sera ouvert au public ce week-end. La Romieux.
L'abbaye de l'abbatiale de la Romieux.
L'abbatiale de la Romieux et le cloître où nous serons présentes en Fondation du patrimoine aux côtés de la mairie et de l'Association des chemins de Saint-Jacques.
Oui, parce que le chemin passe
à la Romieux.
À la Romieux, ouais. et c'est notamment pour ça que la Romieux est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Absolument.
Voilà.
J'ajoute que nous serons présents au Palais Niel d'ailleurs aussi, nous y sommes tous les ans. Et puis une autre suggestion, c'est dans l'Aveyron. Il y a deux randonnées qui sont organisées, alors samedi à 15 et dimanche à Bozoul. Et ce sont des randonnées guidées où on peut au passage observer à la fois l'écosystème, par exemple à Bozoul, celui du Causse-Comtal. Donc l'écosystème et le patrimoine rural le long du chemin. Et là, je conseille de s'adresser pour tout renseignement à l'association Sauvegarde du Rouergue.
D'accord. Merci beaucoup pour vos précieux conseils. Merci Anne-Marie Leroy. Je rappelle que vous êtes déléguée régionale de la Fondation du patrimoine Occitanie-Pyrénées. C'était votre grand entretien sur Radio Présence. Merci.
Merci beaucoup.